On vous parle de ce changement surprise au ministère de l'économie. On s'intéresse à un autre ministre, celui de l'éducation. Et puis on fait un point social avant de parler de sport et d'un anniversaire. Le journal de la mi-journée, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
L'actualité ce matin, Valdemar, c'est ce remaniement ministériel.
Teveiti Pomare est expulsé du gouvernement. Il n'est plus le ministre de l'économie, du budget et des finances. Moeté Brotherson l'a annoncé ce matin. Il est remplacé par Warren Dexter et Caroline Perdri. Vous êtes sur place.
Oui, Charlie, le président du pays a tenu ce matin une rapide conférence de presse pour annoncer le remplacement du ministre de l'économie et des finances, Teveiti Pomare, par Warren Dexter. Charlie, cette décision, elle a été annoncée, elle a intéressé ce matin à 8h. Elle est passée par un comité de majorité réuni exceptionnellement à la présidence. Et puis à 11h, Moeté Brotherson a annoncé ce remaniement après plusieurs semaines de réflexion, dit-il, pour une succession de consignes non respectées. C'est notamment le manque de concertation avec les acteurs économiques qui motive cette décision, développe le président, alors que les réformes voulues par le gouvernement imposent un dialogue plus nourri. Alors, qui est Warren Dexter? Il a 52 ans, il a passé l'essentiel de sa carrière à la direction des impôts, quelque temps aux affaires foncières, puis ces dernières années, depuis 2018, il œuvrait en tant que consultant dans le privé. Il était revenu à la présidence pour être conseiller technique, justement, en matière de fiscalité. Sa feuille de route, dit le président du pays, reste la même, améliorer le pouvoir d'achat et préparer les réformes de la PSG et de la fiscalité, du travail à la fois à court terme, mais aussi à long terme, et on en saura plus demain. Moeté Brotherson sera l'invité de la rédaction de Radio 1 demain de 11h30 à midi.
Merci Caroline Perdri en direct depuis la présidence. On vous donne évidemment tous les détails sur notre site radio1.pf.
On s'intéresse à un autre mystère, cette fois pour parler de la rentrée scolaire.
Oui, la rentrée qui a eu lieu la semaine passée pour 48 000 élèves des primaires, collèges et lycées. Mais la rentrée, ça n'est pas qu'une journée, c'est une période et une période cruciale. C'est ce que rappelle le ministre de l'Éducation dont on avait parlé de la lettre adressée à tous les enseignants il y a quelques jours. Il développait sa vision de l'école polynésienne, dessinait les projets de réforme en cours. Mais Ronnie Terripaya veut aussi s'adresser aux parents dont ils regrettent une baisse globale d'implication dans la scolarité de leurs enfants. La preuve, il la trouve dans cette rentrée justement, et notamment dans les maternelles où il a longtemps enseigné. Il dit observer des parents qui ne font plus l'effort d'entrer dans l'établissement avec leurs enfants par désintérêt ou par appréhension. Aussi, quand le ministre demande aux écoles de faire davantage de place à la culture polynésienne, ce serait aussi pour les rendre plus accueillantes pour les familles. Écoutez.
Ça permet de réconcilier certaines familles qui sont en rupture avec l'institution pour différentes raisons, et ça on le sait tous. Ça permet justement de véritablement mettre en place un partenariat entre l'école et les parents. C'est important. Aujourd'hui, on assiste notamment dans les établissements scolaires où les parents fréquentent de moins en moins les conseils de classe. On a l'impression qu'ils ne s'intéressent plus du tout à l'école, et c'est le travail des enseignants de s'en occuper. On a l'impression que c'est une garderie, non? Ils ont un rôle important, de faire en sorte qu'ils se sentent bien et qu'ils prennent plaisir à l'alcool tout simplement.
Ronnie Terripaya, dont tout le projet pour l'école polynésienne tourne autour de la différenciation avec la métropole, l'adaptation des programmes, des langues d'enseignement, du cadre culturel, mais aussi du calendrier. Vous en avez parlé, hein, une réflexion est lancée cette année pour des changements entrevus pour 2026. Alors le ministre ne veut pas trop s'avancer, il assure que les groupes de travail vont se mettre en place dans les semaines à venir et qu'une grande consultation des partenaires sociaux et des parents sera effectuée début 2025. Mais le fait est que le renversement du calendrier scolaire pour une rentrée en février fait bien partie des options sur la table. Ce ne serait là qu'un des éléments de la refonte complète du système éducatif polynésien.
Ce n'est pas le principal élément, mais ça contribue fortement à cette réforme qu'on veut mettre en place. Il faut savoir que lorsque un élève est en classe et qu'il fait très chaud, forcément il n'a pas envie de travailler, et l'enseignant non plus. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? L'enfant ne travaille pas bien, l'enseignant peut aussi s'énerver parce qu'il a chaud et doit gérer 30 élèves dans une classe. Donc du coup, on préfère que les enfants aillent en classe quand il fait plus frais, et les enseignants prennent beaucoup plus plaisir à travailler avec leurs élèves.
Bon, alors si la rentrée est décalée de 6 mois, beaucoup de questions vont se poser. Que faire du semestre en plus qui va être créé? Que faire des bacheliers qui devront attendre 6 mois entre leurs examens et l'entrée en études supérieures? Comment gérer les affectations de professeurs? Tout ça sera exploré, assure Ronnie Terripaya, qui avait été critiqué pour le manque de préparation de sa réforme des rythmes scolaires entrée en application pour cette rentrée. Le ministre explique pourtant qu'il ne reçoit pour l'instant que très peu de retours négatifs sur les nouveaux horaires différenciés selon les communes. Il veut aussi rassurer, les nouveaux rythmes ne sont pas figé.
Il est important, lorsqu'on met en place une réforme, de ne pas figer les choses. Il y a toujours des améliorations à apporter. C'est bien un projet, c'est un projet de société. Donc, qui dit projet, c'est quelque chose qui n'est pas finalisé, qui n'est pas bouclé. Il y a toujours des améliorations à faire. Et donc, on se donne jusqu'à décembre pour qu'on ait des remontées, pour pouvoir ajuster après, à partir du mois de janvier. Rien n'est figé.
Voilà toute l'interview de Rony Terhipaya qui ne s'exprime pas en revanche sur sa récente mise en examen pour provocation à la haine raciale. C'est à retrouver sur radio1.pf.
On poursuit Val-de-Marc par des nouvelles des mouvements sociaux.
Oui, puisque des protocoles de fin de conflit étaient annoncés ce week-end chez ADT en grève depuis près d'un mois et chez les prestataires de sûreté en grève depuis 20 jours. Mais malgré d'intenses négociations, des compromis trouvés sur l'essentiel des revendications, voire des documents finalisés, aucune signature n'a finalement eu lieu ce week-end. Alors dans les sociétés de sûreté, les syndicats attendaient le retour d'un des dirigeants qui doit rentrer des marquises aujourd'hui. Chez Atia et moi, le syndicat moteur du mouvement, on évoquait hier une possible signature de protocole dès ce retour. Mais d'autres militants ont rappelé que rien n'était encore fait. Au cœur des discussions dans ces sociétés, le 13e mois. Alors du côté d'ADT, des projets de rédaction de protocoles ont été échangés tout le week-end. Mais malgré une ultime réunion dans la soirée, rien n'a été signé non plus. Là aussi, on espère un accord. Aujourd'hui, salaire et statut sont au centre des discussions. Mais c'est aussi la répartition des compétences entre les directions d'ADT et notamment la place de la directrice des ressources humaines. Pour les syndicats, l'accord doit donc être négocié à la virgule près. De nouveaux rendez-vous sont prévus cet après-midi dans ces différentes structures.
Du côté des bus, la grève n'est pas pour aujourd'hui, mais elle pourrait être seulement reportée.
La rencontre avec les responsables syndicaux du transport terrestre et la direction de RTCT n'a pas permis d'avancer sur le fond des revendications ce week-end, mais elle a permis d'établir que le préavis déposé mardi dernier n'était pas conforme à la réglementation. Il n'y avait pas les 5 jours ouvrés de délai comme le prévoit le Code du travail. La grève est donc évitée ce lundi, mais ce n'est que partie remise. Un nouveau préavis doit être déposé rapidement. Les syndicats veulent discuter des conditions de travail, de la sécurité et de la convention collective.
Et on parle d'un compte à rebours qui va bientôt prendre fin.
La SOMAC doit quitter le site de Titioro dans 10 jours. Le distributeur de matériaux et d'outillage avait été déclaré occupant sans droit ni titre du terrain par la cour d'appel en avril. Ce sont les propriétaires qui avaient saisi la justice après un conflit de loyer qui s'est envenimé. 90 salariés risquent donc de perdre leur emploi. Et les 4 mois laissés à la SOMAC pour partir arrivent à l'échéance le 27 août. Et pourtant, dans les rangs de l'entreprise, on se dit plutôt rassuré puisque la direction aurait trouvé des solutions. C'est ce que disent les employés. Ils parlent de nouvelles négociations avec les propriétaires fonciers ou de recours qui pourraient éviter l'expulsion. Une sérénité qui laisse perplexe quand on interroge l'avocat des propriétaires fonciers.
Et oui, car Maître Hussang est très clair, il n'y a pas eu de négociation entre le patron de la SOMAC, Quito Brown Ortega, et ses bailleurs, encore moins d'accord, aucune évolution en fait depuis le mois d'avril dernier. Le 28 août, la société civile MCF de la famille Shinfo devrait bien demander le départ de la SOMAC par voie d'huissier et le déclenchement des astreintes de 100 000 francs par jour qui avaient été décidées par la cour d'appel. Il y a tout de même un dernier espoir juridique pour le distributeur de matériaux, un pourvoi en cassation a bien été formé, mais son issue est très incertaine et ce recours n'est pas suspensif de la procédure d'expulsion, voire même conditionné, sauf exception, à l'application de la décision de la cour d'appel. Il faut aussi noter que Quito Brown Ortega publie toujours régulièrement des annonces pour chercher un autre terrain de 12 à 15 000 m² si possible en zone urbaine, mais aucun déménagement n'est pour l'instant lancé du côté de Titioro.
Voilà, vous avez entendu les explications de Charlie René. Alors à noter que si les propriétaires du terrain voulaient vraiment faire expulser la SOMAC, ils devraient demander le concours de la force publique et donc obtenir la signature du haut-commissaire. Une décision pas si facile vu le nombre d'emplois en jeu. Pour l'instant, la société MCF de la famille Chinfo a seulement lancé une procédure pour faire estimer le coût de remise aux normes des bâtiments sur le terrain et faire chiffrer son préjudice en tant que propriétaire.
Il est de retour depuis quelques jours, nous sommes allés à la rencontre de Cao Livast.
Le médaillé d'or des Jeux Olympiques est revenu sur sa victoire et son voyage à Paris. Il a reçu la presse samedi au centre technique de la Fédération Tahitienne de Surf à Papara. Une célébrité surprise qui lui permet de rencontrer d'autres athlètes de haut niveau, mais également d'aller à des endroits où il n'aurait jamais cru se retrouver. On a par exemple vu une photo de la finale de basketball où il était aux côtés de Léon Marchand, Teddy Riner et Antoine Dupont. Il s'est dit étonné d'être reconnu dans la rue à Paris, de voir cet enthousiasme pour le surf et la fascination en particulier. Particulier pour le Fénois.
Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde qui avait suivi, qui était là à supporter. Et de voir autant de personnes me reconnaître dans la rue, déjà, moi, c'est pas, personne ne me connaît. Donc, arrivé là-bas, tout le monde me demandait « Ah, Kaoli, c'est toi le surfeur ?» et tout. J'étais « Ah, ok. » Je ne savais pas. Et c'était magnifique de voir ça. Et un accueil de fou. Et en fait, c'était que des surprises à chaque fois. Moi, je suis arrivé, j'avais aucun planning. Ils avaient déjà à peu près tout préparé, mon agent, mon père et tout. Et donc, j'ai enchaîné les médias, j'ai enchaîné le Club France. Moi, j'ai découvert tout ça. c'était que des trucs magnifiques que je vivrais peut-être plus jamais, donc c'était juste incroyable.
Kaoli Vast, qui est également revenu sur la compétition en elle-même, son duel avec Johan Duru, une série difficile à vivre, mais dans laquelle ils ont tout donné, bien évidemment, les deux belles vagues de sa finale aussi, qui lui ont permis de décrocher leur Olympique. Mais rien du podium du PK0, multiples ovations métropolitaines ne semblent avoir fait varier son état d'esprit. Ces moments extraordinaires l'ont simplement boosté pour la suite et ses objectifs, intégrer le Championship Tour et devenir champion du monde. Il faudra donc faire de très bons résultats dans les prochaines étapes de qualification au Portugal fin septembre et au Brésil en octobre.
Je sais même pas combien je suis au classement tellement j'ai pas de résultats pour l'instant. Mais si je fais de bons résultats, je re-regarderai mon seeding dans le truc et on verra d'ici là. Je sais que je marche mieux quand j'ai un objectif, mais si l'objectif c'est d'essayer déjà de faire une demi, c'est ça. Après maintenant les calculs, les machins, les trucs, papa il est assez fort pour ça. Mais en tout cas, voilà, hit by hit et déjà essayer de redescendre et voilà, de me bien concentrer dans le style de vague qui va falloir surfer, un peu plus pourri, un peu plus compliqué, avec un peu plus de monde.
Voilà, il va falloir redescendre, comme explique Kaoli Vast, et reprendre les entraînements sérieusement. Le surfeur ne s'est pas étendu en revanche sur la polémique d'il y a quelques jours concernant Hira Terinatoofa. Il aurait simplement aimé que tout le monde puisse venir à Paris fêter les médailles, mais c'était compliqué, dit-il. Aujourd'hui, il souhaite rester focus sur son cap. Plus que jamais, Kaoli Vast est prêt à ne rien lâcher.
On reste dans le sport et les médailles, surtout avec ces beaux résultats de la délégation de rameurs à Hawaï.
Oui, les championnats du monde de VAR en vitesse, c'est en ce moment à Hilo. Après un très beau week-end, on comptait 17 titres pour Tahiti, il faut désormais en ajouter un 18e avec le succès ce matin de la Paddling Connection de Rayatea en V12 sur 500 mètres et chez les Masters de plus de 50 ans, bravo à eux. Alors au total, le Fénois compte 25 podiums, loin devant la Nouvelle-Zélande, les États-Unis ou Hawaï. Et ce n'est pas fini car la compétition continue aujourd'hui et ce jusqu'au 24 août.
Et après avoir célébré toutes ces médailles, on fête un anniversaire pour finir.
Oui, vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux, Radio 1 fête ses 43 ans ce lundi. Alors cela commence à faire un beau bout de chemin pour la première FN du Fénois, qui est né juste après la libéralisation des antennes radio. À l'origine, c'était une radio associative. On refait l'historique avec la directrice générale Sonia Aline.
Albert Aline, Edwin Aline, Mario Nouveau et Alain Restelli, donc quatre copains qui étaient des jeunes de leur temps, qui aimaient la musique et qui trouvaient qu'il y avait un manque en Polynésie.